1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann, avec vous pour l'émission Le Grand Tout. Vous écoutez Canal B, on va passer une heure ensemble, si vous le voulez, 17h-18h du lundi au vendredi, rediffusion du mardi au samedi matin de 9h à 10h, et puis, je vous le répète, tous les jours, vous retrouvez une playlist à écoute sur canalb.fr. Le Grand Tout, aujourd'hui, nous emmènera pour la session info concert tout à l'heure, du côté des Paradis Perdus, ce vendredi, avec DJ Momo qui invite Medouchki. On parlera aussi d'un concert plutôt énervé le 25 février à l'Antipode avec Aurore et Nate No Face, et puis on terminera avec une jam folk à la bascule où vous retrouverez le groupe rennais Buckwheat. Avant ça, puisque c'est jeudi et que tous les 15 jours le jeudi on retrouve Léa, et bien elle nous parlera dans Onde Graphique, sixième du nom, de bande dessinée, des albums Oleni par Aurélien Maury, et puis de Retour à Carmélite par Thaïs Guimard, ça accompagné de sa sélection musicale et puis de quelques actus autour de la bande dessinée. On ira du côté folk, néo-folk psychédélique anglais tout à l'heure avec Jane Weaver et une belle réédition. On écoutera aussi Graham Reynolds. Je vous parlerai d'un extraordinaire label qui organise aussi des événements. Il s'appelle Weird Walk, pour tous les amoureux du paysage anglais et puis de vieilles traditions un petit peu mystérieuses. On commencera l'émission dans quelques secondes avec notre disque d'or de la semaine Expo pour les Anglais de Ulrika Spacek. C'est leur quatrième album, un album pop, un album qui n'hésite pas aussi à être parfois mélancolique, parfois un peu plus électrique, comme vous allez pouvoir l'entendre dans le morceau Picto. Vous l'avez déjà entendu sur Canal B puisque c'était un des premiers singles extraits de ce très chouette album disque d'or de la semaine. Donc bonne émission.
Can't find field, call stream, back in front.
drôle d'ambiance entre époque médiévale et puis synthétiseur. C'est Graham Reynolds qu'on entendait à l'instant avec le titre Pevensey. C'est un nouvel EP qui va sortir très bientôt de Portcullis. En français, on dira une herse, hein, une grille de fermeture d'une porte, la plupart du temps, devant l'entrée d'un château fort. Un mot qui vient du français, on l'entend bien, Portcullis. Bon, on n'est pas là pour faire de la sémantique ni des leçons de vocabulaire, mais en tout cas, on écoutait un morceau qui donne envie d'en savoir un peu plus. Et c'est toute une histoire familiale et ancienne que raconte Graham Reynolds, puisqu'il a pu remonter jusqu'au 12e siècle, oui, et puis parler d'un de ses ancêtres, Richard Reynell. Avant qu'on dise Reynolds, on disait Reynell, qui était shérif du Devon et qui gérait le château de Launceston. C'est peut-être ça, la herse qu'on entendait à l'instant. On est tout à fait dans un univers d'illustration sonore, hein, musique pour film ou série imaginaire. Allez savoir, peut-être que Weird Walk, le label qui sort ça conjointement avec Fire Records, ira aussi du côté du cinéma. Le label Weird Walk, c'est plus qu'un label de musique, hein. C'est un collectif qui aime à aller faire découvrir eh bien, le paysage de l'Angleterre et des îles britanniques. C'est aussi un très bel éditeur, ils ont de très très belles publications, toujours autour du côté mystique, païen, si vous aimez Stonehenge par exemple, eux aussi, sans le côté complètement azimuté non plus, hein, mais avec un respect pour ces époques anciennes. Il propose des événements assez immanquables. Si vous vous trouvez du côté de Falmouth bientôt, à la fin du mois d'avril, eh bien vous pourriez participer à cet événement Leilin, où justement Graham Reynolds, qu'on écoutait à l'instant, jouera Portcullis, l'album en entier. Et puis vous retrouverez aussi Jane Weaver, Memorials, Andy Votel en tant que DJ. Ça peut être un moment assez, assez féroce et qui vous fera peut-être voir des fantômes des époques médiéval. On poursuit avec Jane Weaver, là c'est une anglaise elle aussi qui voit son album The Fallen by Watchbird sorti en 2010, réédité par le label Fire Records, un album qui convoque aussi bien la pop synthétique et psychédélique que le folk, des ambiances un peu mystiques, il y a des synthés là-dedans, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça, elle aime aussi le cinéma pour enfants de l'Europe de l'Est, c'est très spécifique, tout est très spécifique hein, dans ce que propose Septième Sœur, ça c'est le nom du groupe de Jane Weaver, elle a invité du monde, Wendy Flower du duo Wendy et Bonnie, mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard. Pour l'instant, on écoute justement un extrait de cette réédition pour les 15 ans de la sortie, c'est le label Fire Records qui sort ça, et voici le titre phare, absolument irrésistible, je trouve que ce morceau, The Fallen by Watchbird par Jane Weaver, Septième Sœur.
Thank you.
folk psychédélique, ambiance un peu mystique. On n'est pas très très loin de la bande originale du film de Wicker Man et son univers folk horror. Jane Weaver, Septième Sœur, c'est une réédition toute récente. Hein, c'était à la fin du mois de janvier que le label Fire Records faisait paraître cette réédition d'un album sorti à l'origine en 2010, où on retrouve un complément, un deuxième album avec quelques invités de prestige, notamment Wendy Flower, que vous allez pouvoir entendre accompagnant Jane Weaver sur ce titre Silver Cord. Wendy Flower n'est autre que la sœur de Bonnie Flower. Le duo Wendy et Bonnie Flower sortait un album en 1969, l'album Genesis, un album psyché pop d'une légèreté et d'une élégance assez rare. Et ce disque-là, malheureusement, était un petit peu passé inaperçu. Le label qui le sortait, le label Sky, en 1969, a fait faillite. Ça a été réédité par Sundays à plusieurs reprises. Je vous conseille chaudement de vous procurer les rééditions. On écoute d'abord Jane Weaver avec le morceau Silver Cord, avec Wendy Flower à la voix, et puis on retrouvera un morceau de cet album Genesis de 1969 juste après.
Just
Wendy and Bonnie Flower, deux musiciennes, deux sœurs américaines qui ont sorti un magnifique album Genesis en 1969, un petit peu disparu de la circulation pour cause de faillite du label qui l'avait sorti, le label Sky. Elles avaient 17 et 13 ans respectivement, hein, ces deux sœurs-là, lorsque c'était sorti. Un album qui mélange psychédélisme doux et puis ambiance un peu brésilienne de temps en temps. On retrouvait du beau monde, notamment le guitariste Gabor Szabo pour les arrangements. Et puis, sachez quand même que Wendy Flower n'a pas totalement disparu de la circulation, puisque elle a pu être samplée par les Super Furry Animals. Laetitia Sadier de Serolab avait enregistré une de ses chansons. Et puis elle avait pu revenir sur le devant de la scène à San Francisco, sa ville natale, avec les Super Fury Animals pour un live un peu fugace sans doute. Et puis elle a été aussi invitée par Jarvis Cocker pour le Meltdown Festival, où elle avait été accompagnée par Jane Weaver, on y revient, et par les Ailiamas. Vous avez rendez-vous dans quelques secondes avec Onde Graphique numéro 6. Je vous rappelle simplement que l'album Genesis de Wendy and Bonnie a été réédité à de nombreux reprises, notamment par le très bon label Sundazed. Chers auditeurs, auditrices de Canal B, vous le savez, dans Le Grand Tout, tous les 15 jours, le jeudi, on retrouve Léa. Salut Léa.
Salut.
Pour nous parler BD dans Onde Graphique, avec bien des chroniques albums, et puis aussi des infos autour de la bande dessinée, ça sera en fin de partie tout à l'heure, et puis une section musicale que tu choisis, qui vont de très très près avec tes chroniques. Je te laisse commencer Onde Graphique numéro 6.
Eh ben Yann, pour être honnête, j'ai eu du mal à lire dernièrement. J'ai été tellement transportée par les univers oniriques des deux dernières parutions des éditions Morgan, je vous renvoie à mon dernier passage au micro de Canal B d'ailleurs, que peu de nouveautés ont fait tilt. En réfléchissant à quel BD j'allais bien pouvoir chroniquer, Oleni s'est imposé assez naturellement. C'est un titre que j'ai lu à sa parution il y a 2 ans et qui pop comme ça régulièrement dans mon esprit. C'est bien signe qu'il m'a marqué. Et pour cause, si la ligne claire épurée peut paraître simpliste voire naïve, l'histoire, elle, retourne le cerveau. June est passionnée par les animaux et en a fait son métier puisqu'elle est véto. Mariée, elle déménage dans une autre ville pour suivre son mari muté récemment. Elle s'enfonce dans une vie morne et insipide dans laquelle elle ne s'épanouit plus. Sa maison est la même que tout le quartier. Elle n'a aucune occupation à part tenir la maison. Son mari est de plus en plus absent et quand il est à la maison, il passe son temps à bosser ses dossiers. Bref, rencontre une femme malheureuse et délaissée, en proie à un vide existentiel. Un jour qu'elle se balade, elle trouve une créature mal en point. Vous pensez bien qu'en tant qu'amoureuse des animaux, elle va décider de la ramener chez elle et de la remettre sur pied. Mais cette créature difforme, peu ragoûtante et surtout non identifiée, quelque part entre un crapaud, un poulpe et un gros poulet déplumé, n'a pas l'air de se nourrir facilement. June va se prendre d'affection et la nommer Lenny et plonger tête la première dans une relation fusionnelle. S'il ne parle pas, June le comprend et lui donne tout ce dont il a besoin, quitte à lui laisser du sien. Le lecteur assiste à une fusion nocive et pernicieuse entre les deux protagonistes. June change du tout au tout. Elle repousse son mari et entre dans une relation de plus en plus charnelle, limite macabre, avec Lenny. Mais jusqu'où ira-t-elle pour le bien-être de l'étrange animal ? On va pas se mentir, c'est une lecture malaisante mais fascinante. Elle se lit d'une traite, car comme dans tout bon thriller, la tension monte crescendo. Il y a quelque chose de Charles Burns ou Daniel Clowes, et même de Timothée Le Boucher pour le côté cocorico, avec l'ambiance glauque et dérangeante qui se dégage du récit. On assiste avec effroi au dépérissement de June, qui agit comme une camée supradépendante vis-à-vis de cette horreur gloutonne. Aurélien Maury a mûri ce projet pendant des années. Il l'a déjà utilisé sous forme de sketch humoristique avant de prendre une direction plus horrifique. Maury traite les relations toxiques, la plus évidente étant celle du couple Lenny-June, mais il y a aussi celle plus sous-jacente entre June et son mari. On voit bien la façon dont elle s'efface et même s'écrase face au choix que son mari prend, la concernant directement aussi. On peut comprendre qu'elle s'abandonne aussi rapidement et profondément avec Lenny. L'auteur critique également nos sociétés modernes et l'uniformisation de nos façons de vivre, dans des maisons toutes identiques par exemple, de consommer tous pareil, de travailler toute la journée, de ramener du taf à la maison, au détriment des relations humaines. La solitude, le mal du XXIe siècle. Il questionne aussi notre rapport à la nature, en particulier au travers du personnage donc du mari, qui préfère bétonner son jardin plutôt que de créer un potager ou planter une un arbre. Pour tout être sensible à la cause animale, Oleni est assez violent et pas forcément là où on s'y attend. Côté mise en page, je l'ai mentionné au début de chronique, mais la ligne claire et les aplats de couleurs numériques donnent une ambiance chaleureuse qui allège le récit de manière bienvenue. Mori a bourré sa BD de références, les plus évidentes étant un clin d'œil à Hergé, que tu as remarqué tout de suite d'ailleurs, et aussi à Hokusai, que je vous laisserai découvrir. Entre amour et emprise, il n'y a parfois qu'un pas.
Probablement aurez-vous reconnu ce titre de Massive Attack choisi par Léa dans Onde Graphique numéro 6, mais il y a une bonne raison à ce que tu nous la fasses entendre après ce Oléni par Aurélien Maury.
C'est un titre que je trouve hyper sensuel et un peu dérangeant, angoissant. Je trouvais que ça collait hyper bien avec l'ambiance de la BD.
Y aura-t-il de l'angoisse à côté dérangeant dans l'autre album dont tu nous parles aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr, j'ai à peine parcouru, mais j'ai pas eu l'impression de sentir l'horreur dans Retour à Carmélite de Thaïs Guimard, paru chez Sarbacane tout récemment en janvier 2026.
Non, hein, y a rien de trop dérangeant ou glauque. D'abord, un petit mot sur Thaïs Guimard. Donc, elle est née en 97 à Nantes. Elle a quitté sa ville natale pour aller faire ses études une école d'art à Angoulême. Et elle est membre du collectif Next Revel et elle a cofondé le festival de micro-édition Zinzinerie à Rennes où elle habite depuis 2023. Moi, je vais vous parler de sa première BD, Retour à Carmélite, qui est parue chez Sarbacane le mois dernier. À 27 ans, Marthe rentre dans sa ville natale pour écrire sa thèse consacrée à l'architecture. Enfin, en théorie, parce que ça fait 3 ans qu'elle est dessus et on peut pas dire qu'elle soit très investie, bien que son sujet la passionne réellement. En fait, Marthe, elle est un peu paumée. Elle est pile dans ce moment particulier, charnière même, où l'on passe d'adolescent à vraiment adulte et qu'on sent que tout change autour de soi. Elle a l'impression de régresser. Elle vit chez sa mère, qui ne la considère plus comme une enfant et lui demande de participer un minimum. Elle traîne dans son bar favori, passe du temps avec ses copines de toujours. Sauf que chacune a des obligations, du taf ou pas de thunes, et à son grand désarroi, elle qui aimerait tant pouvoir fuir la réalité et ses obligations. Par ennui, elle installe une appli de rencontre où elle matche avec Lucas, un jeune homme drôle et charmant qui occupe toutes ses pensées. En plus, il vit dans l'immeuble sur lequel elle fait sa thèse et qui est si difficile d'accès. Entre désir et opportunisme, Marthe va s'accrocher fort à lui. Retour à Carmélite constitue une chronique sociale d'où sa mère comprend plaisir à lire. Je pense qu'elle peut parler à tout un chacun, car on s'est tous retrouvés dans une situation similaire où on se sent en décalage avec son entourage ou avec ce qu'on attend de la vie. Marthe est engluée dans un quotidien qui ne lui correspond pas, elle voudrait fuir mais reste bloquée. Elle est touchante, prise dans ses désillusions, ses errances et ses attentes. Elle est pleine de contradictions, notamment concernant ses copines, qui sont déjà bien installées dans leur vie d'adulte, tandis que Marthe est plus flottante. Elle les envie tout en leur reprochant leur indisponibilité. L'autrice a su instiller un mélange de tendresse et d'amertume que je trouve très juste. En fait, Marthe, elle a du mal à réaliser que sa vie, et plus largement sa ville, est en pleine mutation. Elle qui fait sa thèse sur un immeuble HLM qui la fascine depuis qu'elle est gamine, elle ne se rend pas compte que rien n'est immuable. Le quartier Crénios se boboise, son collège va être démoli, de nouveaux quartiers fancy émergent, les années ont passé entre ses souvenirs et la nouvelle gentrification qui touche la ville. Elle doit faire un deuil entre ses souvenirs d'enfant et la ville aujourd'hui. Là encore, ça vous dit peut-être quelque chose comme sensation. Et puis Thaïs Guimard explore aussi les nouveaux codes de l'amour et de la séduction au travers des applis de rencontre. Le swipe frénétique quand on s'ennuie, l'espoir et les illusions qu'on ressent au moment d'un match. Elle analyse avec finesse la manière dont on peut être obnubilé par son appli et va même plus loin en montrant la dépendance affective qu'elle peut générer. Marthe, elle passe un temps fou sur son appli à swiper puis à discuter avec Lucas. Pour faire le lien avec la chronique précédente avec la question de la solitude, ici, la BD appuie sur celle qu'on peut ressentir, scotchée à son téléphone, à projeter une certaine image de soi et en recevoir une enjolivée. Être dans l'expectative pour finir déçu, le mal des applis de rencontre. Ça me fait penser à l'excellent Love Machine de Jeanne Kiwigé, paru aussi chez Sarbacane, dans lequel on découvre un jeu en 6 étapes censé révéler le grand amour, sauf que c'est complètement barré et cynique. Pour revenir sur Retour à Carmélite, c'est un roman graphique très contemporain, très pertinent dans les préoccupations de la nouvelle vie d'adulte en milieu urbain. Les dialogues tombent juste, c'est à la fois tendre, mélancolique et drôle. Le dessin est vraiment chouette, simple et coloré, super actuel aussi. C'est hyper agréable à regarder. De nombreuses cases sont muettes, on voit Marthe en mouvement, déambulant dans les rues, ou au contraire statique, couchée à rêvasser ou en train de scroller sur son téléphone. Comme une réflexion mélancolique des changements qui s'opèrent. C'est une BD qui parle d'architecture, Thaïs Guimard a créé une ville foisonnante, pleine d'immeubles aux formes et aux couleurs farfelues, qu'on prend le temps de regarder et arpenter. En bref, c'est un titre d'une justesse et d'une finesse très prometteur pour la suite de sa carrière. This is a creation story. The first sunrise in primordial chaos. Angels welcoming the dirt. Fire and ice. Weeping cerulean blue over matter, perceiving itself again and again. Wiping new sweat from its brows, it ran, trickling down into fjords and into the beating heart of the first falcon. I who have sat by Thebes below the wall, born of earth, of air, of water, of fire. All these years I shrunk smaller and smaller till I'm so, so big. Over this wasted land, the ocean winking in my pearl eye, sublime I die, divide, divide, sipping the fragments like poppy wine, a rich oblivion, fertile, swimming beneath the cracked earth. Running towards redemption, dancing towards God, all lamb of the world, oh gleaming pearl, filling the air with transcendent whisperings, filling the horizon, filling her with a single
à l'instant, New Eves, extrait de leur premier album, New Eves is Rising, quatuor de Brighton. T'as adoré, je crois que tu as découvert ça.
Ouais, bah merci d'ailleurs, c'est toi qui m'en a parlé. J'aime beaucoup, je trouve que ça a une belle énergie. Et en fait, dans la BD, Marthe, elle va tout le temps dans son bar préféré, Le Petit Chien, dans lequel elle a vu plein de concerts. Et j'imaginais en fait tout à fait New Eves dans ce petit bar-là.
Et j'imagine que ce petit chien, en vérité, s'appelle le chien stupide à Nantes. Puisque
la rue
des Carmélites, c'est à Nantes et qu'elle vient de là-bas.
C'est possible.
Bon, en tout cas, vous avez entendu juste avant New Eves, cette chronique de l'album de Thaïs Guimard, Retour à Carmélite. Là, on passe à la suite de la chronique On Graphique, la sixième du nom. Léa, tu nous proposes d'aller à quelques événements autour de la bande dessinée.
Tout à fait. Et donc, on va commencer par l'exposition de Thaïs Guimard, qui a donc écrit Retour à Carmélite. Ça se passe à Fougères à l'occasion du Printemps des femmes et des filles. C'est à l'Esplanade des Chaussonnières.
Une autre info, d'habitude, tu nous en proposes deux. Là, c'est carrément un festival. Je crois qu'il y en a cinq aujourd'hui.
Quatre
seulement. On exagère.
Après, je vous propose une rencontre avec Agathe Allais le samedi 21. C'est l'autrice de L'étrange et envoûtant miroir aux amulettes, paru au Requin Marteau. C'est en écho avec l'exposition qui a lieu jusqu'au 28 février à la bibliothèque du Triangle. La rencontre aura lieu de 15 à 16 heures. Et puis, une autre exposition, Rennes 2030, d'Ismaël Adour, qui est illustrateur et membre de la Vilaine, à voir au BAM. Et ça, c'est jusqu'au 4 mars.
Pour terminer un événement autour d'un sujet qui déborde un petit peu la bande dessinée, mais qui peut lui être lié.
Tout à fait, c'est cette fois le 28 février. C'est la cinquième édition des rencontres du Fanzina et de la presse alternative au Jardin Moderne. Donc ça aura lieu de 14 à 20 heures. L'occasion de rencontrer, d'échanger autour de stands de fanzines et d'illustrateurs locaux et nationaux. Vous pourrez aussi mettre la main à la pâte parce qu'un espace sera dédié à la création. Des affiches et des feutres seront à dispo pour que vous puissiez laisser une création, un poème, un dessin.
Merci beaucoup Léa pour cette nouvelle chronique Onde Graphique, sixième du nom. Tu reviendras nous voir pour que tu nous parles bande dessinée. Merci
et
à bientôt.
Merci, à bientôt.
La session info concert, on se balade entre une soirée musique électronique au Paradis Perdu ce vendredi 20 février. Un concert plutôt hardcore, on va dire, puisque vous retrouverez Aurore le 25 février à l'Antipode. Et puis on terminera avec la folk toute douce des Rennais Buckwheat à la bascule le 28 février. On commence avec cette invitation lancée par DJ Momo à Medouchki pour partager les platines des Paradis Perdu. C'est vendredi soir. Et c'est une soirée façon ping-pong. Chalamet ne sera pas présent, je crois, mais en tout cas, du ping-pong entre électro, left field, ambiante, house ou break. On écoute un morceau de La Castagne M. Lau, le titre Ghost, avec Plastic Place. C'est un autre des pseudos de Medouchki, invité par DJ Momo vendredi soir.
things happening.
DJ Momo invite Medouchki au Paradis Perdu rue Vasselot, c'est vendredi à partir de 19h. On poursuit les infos-concerts avec cette soirée du 25 février à l'Antipode. Attention, ça va taper assez dur avec les Aurores et leur mélange apocalyptique entre metal, hardcore, punk, électro, rap. Aurore, on les écoute dans un instant avec le titre Knuckle Up, ça joue à l'Antipode le 25 février avec aussi Nate No Face. Lui, c'est une des figures de la scène synth-punk d'Arizona. Et vous allez pouvoir l'entendre avec ce mélange punk, hip-hop, new wave aussi, dans le titre Takes One to Know One. On écoute d'abord Aurore, puis Nate No Face, à retrouver le 25 février à l'Antipode.
Done. You got one life to live. You live that shit to the motherfucking fullest, and don't let anybody.
Nate No Face à l'instant, à retrouver en première partie de Aurore pour un concert bien musclé le 25 février à l'Antipode. On termine la session à fond concert en douceur avec les Rennais Buckwheat, que vous avez peut-être vu à plusieurs reprises ces derniers jours, ces dernières semaines, entre le Melody Maker ou le Bistro La Cité. Là, ils seront à la Bascule le samedi 28 février. C'est à Rennes, c'est rue de la Bascule, c'est simple. Et c'est lors d'une jam folk que vous les retrouverez. D'abord, le concert de Buckwheat entre indie rock et folk, et puis vous retrouverez ensuite eh bien, la scène ouverte. Tout sera présent, guitare, batterie, micro, ampli et clavier. Si vous avez envie de venir chanter quelques morceaux folk, eh bien, allez-y donc y faire un tour. C'est donc le 28 février, on termine avec le morceau Young Boy par Buckwheat. On se quitte maintenant. Vendredi, vous retrouverez la rediffusion de l'émission Champ Libre A, saison 3, épisode 6. Elle était consacrée à l'écrivain Jean-Baptiste Delamo et elle a eu lieu en direct le 6 février dernier au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres dans le cadre de Jardins d'hiver. On y parlera beaucoup horreur entre cinéma et puis souvenirs aussi d'adolescence autour de son dernier roman en date, La Nuit Ravagée, paru chez Gallimard. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouvera bientôt sur Canal B pour le grand tout. Retrouvez playlist et écoute sur canalb.fr. Ciao.
Will you open this world to your sanctuary fields?